Cause à effet, le magazine de l'environnement.
La finance au secours de la planète qui brûle. Des méga-feux, des inondations à répétition, des épisodes climatiques de plus en plus violents, les catastrophes dites naturelles se multiplient sous l'effet du réchauffement climatique et l'Australie en est actuellement le symbole et la victime. Au-delà des conséquences dramatiques qui en découlent, la question des réparations et des indemnisations suscite interrogations et débats. Quel sera le coût du changement climatique pour les États, les populations et la nature? Comment les États et le monde de la finance pourront-ils faire face à ce coût économique exponentiel? Quelles politiques d'anticipation et de prévoyance sont à envisager pour les territoires? Comment prévenir plutôt que guérir et subir? Avec nous pour répondre à toutes ces questions, aujourd'hui, Alain Grandjean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Fondation Nicolas Hulot, polytechnicien, docteur en économie, auteur notamment du livre « Agir sans attendre », un livre édité au Lien qui libère. Et on peut aussi mentionner, bien sûr, le livre que vous avez coécrit avec Mireille Martini, « Financer la transition », un livre paru aux éditions de l'Atelier. À vos côtés, Vivian Despoisses, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut de l'économie pour le climat, spécialiste de l'adaptation au changement climatique et auteur d'une thèse d'économie sur l'adaptation des organisations gestionnaires d'infrastructures. Et avec nous également Charlotte Chabat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au journal Le Monde, notre partenaire média, et on va comprendre avec vous que vous êtes intéressé ces derniers mois à l'Australie et au drame qui s'y joue. Et en seconde partie d'émission, l'Escale verte nous emmènera à la découverte des plus beaux récifs coralliens, ceux que le photographe Alexis Rosenfeld nous restitue grâce à ses plongées uniques, retrouvées bien sûr dans le très beau livre qu'il a fait paraître aux éditions Mangareva Productions, des photos accompagnées des commentaires de Lambert Wilson et Serge Planès. Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de l'environnement de France Culture préparé par Anaï Morales avec la complicité toujours de Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisé l'émission par Alexandra Malka avec à la technique aujourd'hui Jean-Guy Lamège.
C'était le réveillon du nouvel an, 3h30 du matin. John Lethbridge ouvre la fenêtre de sa chambre et reçoit une vague de chaleur.
C'était ici ma maison et mon studio.
Le feu n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. Ce photographe a juste le temps de s'enfuir. Sa maison et ses deux voitures sont ravagées par une tempête de flammes. John vivait là depuis 20 ans.
Il est arrivé à travers la vallée comme un train à vapeur lancé à 160 km/h.
C'était si rapide ?
Oui, c'était très rapide. La chose la plus effrayante, c'était le son. C'était un immense rugissement qui se rapprochait. C'était plus terrifiant que tout le reste. C'était un endroit magnifique, de grandes pièces, de grandes portes-fenêtres. Le plafond était haut de 4 mètres. C'était... Je l'adorais. Je n'ai pas de mots. J'adorais vivre ici.
Charlotte Chabat, cette Australie donc vit un drame depuis déjà plus de 4 mois, des maisons détruites, des hectares brûlés, un état des lieux dramatique aujourd'hui. Peut-être qu'on peut en tirer un bilan à ce jour en matière de catastrophes humaines, matérielles et environnementales.
Alors oui, c'est des incendies donc, qui ont commencé très tôt cette année, c'est ce qui en fait la particularité. Normalement, la saison du feu en Australie commence aux alentours de décembre et se termine vers février. Cette année, ça a frappé très tôt et surtout avec une intensité qui n'avait quasiment jamais connu de précédent. Aujourd'hui, c'est très difficile d'évaluer la situation parce que, encore une fois, on est en plein dedans et ça va continuer. Là, il y a eu des pluies ces derniers jours, mais malheureusement, ils s'attendent à ce que ça reparte encore plus fort d'ici quelques semaines. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a entre 8 et 10 millions d'hectares qui sont partis en fumée. Il y a environ 8200 déclarations de sinistres, donc des maisons qui ont été touchées. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, le bilan humain est de 25 morts, ce qui est relativement faible par rapport à certains bilans d'incendies qu'il y a eu par le passé, notamment il y a 10 ans, quand il y avait eu vraiment plus de 200 morts dans le Victoria. Malgré tout, ce qui frappe, c'est l'intensité du feu, qui vraiment est d'une ampleur inédite.
Et alors, en matière de conséquences sur la faune, on parle de plus d'un milliard d'animaux qui seraient victimes déjà ?
Forcément, l'Australie, c'est un immense pays. Alors pour nous, c'est un peu compliqué d'avoir une notion d'échelle parce que ça dépasse l'entendement. Mais c'est un pays qui prend
qui fait 14 fois la France, hein,
exactement.
Faut préciser.
C'est l'Europe, en fait. C'est un Sydney-Darwin, c'est un Paris-Moscou. Donc c'est des proportions énormes et en termes de faune également. Il y a une richesse qui est évidemment en train d'être perdue. Après, c'est encore difficile pour l'instant de savoir concrètement quels vont être les dommages, mais tout le monde s'attend à ce que ce soit un bilan très lourd, effectivement.
Alors, en cause, non pas ces événements, finalement, les feux sont connus hein, dans cette période-là, mais le réchauffement climatique en accroît la fréquence et la violence. Alain Grandjean, un dérèglement bien connu depuis longtemps, renseigné par les scientifiques et contre lequel, justement, les chercheurs ont déjà listé des solutions.
Oui, la cause du réchauffement climatique actuel, hein, c'est bien clairement les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. C'est connu depuis très longtemps. Donc la mesure numéro un, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi connu depuis très longtemps. C'est très difficile à faire et d'ailleurs l'observation montre qu'elles continuent à croître alors qu'il faudrait les réduire à toute vitesse. Et donc on n'y est pas du tout. On y est bien en termes de diagnostic et on n'y est pas du tout en termes de politique publique et de gestes soit des entreprises, soit des individus.
Et en sachant que déjà, là, on parlait de l'état des lieux en matière de faune, on pourrait le faire aussi sur la flore en Australie, mais cette crise systémique, hein, on la vit déjà, en dehors des événements dramatiques et violents, taux d'extinction des espèces, épuisement des ressources naturelles, érosion de la biodiversité, réfugiés climatiques, etc., etc.
Oui, il y a plusieurs crises en même temps. C'est-à-dire que là, j'ai parlé deux secondes du changement climatique et des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est pas pour rien qu'on parle de l'anthropocène. Alors certains autres auteurs disent le capitalocène, ça parlera peut-être d'économie tout à l'heure, mais en tous les cas, le sujet c'est bien la pression d'une espèce qui a pas mal réussi, on est assez nombreux sur cette planète, et chacun d'entre nous a une puissance de frappe considérable sur la nature, et il semblerait, moi c'est un peu mon point de vue, que nos systèmes économiques, notre manière de penser l'économie, notre manière de vivre, ne prend pas du tout en considération l'ensemble des conséquences sur la nature et réciproquement ne prend pas en considération les bénéfices que la nature a la gentillesse de nous offrir gratuitement.
Alors des victimes souvent sans assurance, d'ailleurs on pourra en parler dans l'émission, et qui ne pourront probablement pas reconstruire leur maison sur ces terres potentiellement dangereuses. Il y a nécessité de s'adapter et de faire évoluer les territoires et les politiques d'une manière générale, Vivian Despoisses. En fait, ça, au-delà de l'Australie, on peut généraliser quand même ce constat.
Oui, et je pense que pour rebondir sur ce que disait Alain Grandjean, il y a cet impératif de s'adapter, mais on ne saura y répondre que si on arrive à limiter au maximum l'ampleur de ce changement climatique. On peut penser, avec une certaine confiance, qu'on est capable de s'adapter à des réchauffements moyens de 2 degrés, 2 degrés et demi. Si on est beaucoup plus loin, on n'est même pas sûr que ça sera possible. Et c'est, je pense, la principale alerte que ne cessent de répéter les scientifiques. Après, il faut déjà commencer à s'adapter, parce que vous le disiez, on commence à voir les effets du changement climatique. On n'est plus en train de parler d'effets qui seront là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans. C'est des effets qu'on observe depuis quelques années. Il y a des événements extrêmes, il y a des changements plus continus, plus progressifs. Et plus on anticipera, plus on arrivera à essayer de faire avec, à prendre conscience qu'on n'est plus dans un moment où le climat est quelque chose de stable, d'invariable. Alors c'est très compliqué, hein, parce que ça fait des centaines d'années, si ce n'est plus, que notre civilisation, nos systèmes économiques se sont développés dans un contexte où c'était une hypothèse forte de dire le climat est stable. Donc on peut développer de l'agriculture, on peut construire d'une certaine manière, on peut penser nos infrastructures avec certaines dimensions, parce qu'on sait globalement quelles pourront être les conditions climatiques. Et ça, aujourd'hui, c'est en train de changer.
Et donc, face aux politiques de court terme, vous appelez de vos voeux les politiques de long terme, on va en parler sur cette question-là, parce que il y a plusieurs responsabilités, plusieurs niveaux de responsabilité, et notamment ces derniers temps avec le cas en Australie. On voit bien que c'est la politique aussi du gouvernement, notamment qui est pointée là-bas du doigt, et celle du Premier ministre Scott Morrison.
C'est la vie, there we go.
Jenny garde le moral, pourtant elle a tout perdu. Dans l'incendie, les flammes ont englouti sa maison. Alors, quand le Premier ministre Scott Morrison est venu la saluer, elle lui a tourné le dos.
Non, je ne veux pas voir le Premier ministre parce qu'il ne sait pas comment nous aider. On a besoin de beaucoup plus de fonds pour soutenir les services de secours, beaucoup plus. En Australie, on devrait avoir plus d'avions et d'hélicoptères et il faudrait donner plus d'argent aux volontaires.
Oh, should have put a lot more money and given
ici, ce sont des gens qui aident les autres, pas le gouvernement.
I mean, really, it's the people of Australia that are helping each other out, not the government.
Dans ce centre pour sinistrés en bordure de Cobargo, Raz est en pleine discussion avec son assurance. Elle n'a plus rien et fustige son gouvernement. Est-ce que je suis fâchée parce qu'il a diminué le budget de tous les services de secours incendie ici en Australie? Bien sûr que je le suis. Il a mis les moyens ailleurs. Les citadins, eux, ils ont ce qu'il faut, mais nous, dans les campagnes, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on fait alors?
Alors, le Premier ministre a débloqué, Charlotte Chabba, 2 milliards de dollars australiens, hein, si
sur
je ne m'abuse.
Ans. Hein, sur deux ans.
Sur deux ans, 1,25 milliard d'euros, hein, c'est ce que ça représente. Il est bien sûr pointé du doigt aussi pour son climato-scepticisme, l'absence de politique préventive. Comment est-ce que, aujourd'hui, peut-être, ce gouvernement peut potentiellement prendre la mesure quand même de ce coût du réchauffement climatique?
Alors ça va être très dur, déjà ça partait de très loin quand même quand les incendies se sont déclarés et vraiment quand la violence des incendies a été mesurée, il était en vacances à Hawaï, donc ça a été quand même très compliqué dans le pays d'accepter ça. En fait, l'histoire qui est en train de se passer, l'Australie c'est le lucky country, c'est une économie qui depuis 28 ans est en croissance continue, c'est la 12e puissance mondiale, c'est un peuple qui a longtemps cru que sa nature était infinie parce qu'effectivement c'est une île immense. Et aujourd'hui, il y a comme un réveil qui, on entendait dans le son, avant opposait ville et campagne. Aujourd'hui, même les villes ont été touchées. C'est-à-dire que Canberra, depuis deux semaines, a le taux de pollution de l'air le plus important au monde, pire que New Delhi. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la part des Australiens, de beaucoup d'Australiens, que effectivement politiquement, il y a quelque chose qui pose problème. Puisque ce gouvernement, donc, qui est aux affaires... depuis 2016, est basé sur ce climato-scepticisme. Scott Morrison est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir parce que son prédécesseur, Malcolm Turnbull, avait accepté l'accord de Paris. Et du coup, ça avait, dans son parti, fait l'objet de discussions énormes. Il avait fini par être écarté du pouvoir. Donc Scott Morrison, c'est l'histoire de ce gouvernement qui ne veut pas croire au changement climatique, qui veut maintenir son modèle économique basé sur le charbon.
Alors justement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement c'est un pays qui a son industrie du charbon ultra présente, très forte, très puissante. On peut imaginer les lobbies aussi, Alain Grandjean.
Oui, les politiques publiques de chacun des pays du monde, les grands pays, hein, c'est là que ça compte, sont tous dans une ambiguïté la plus totale, puisqu'il y a beaucoup de très grandes entreprises qui sont très émettrices de CO2 et qui, dans le système néolibéral actuel, exercent une influence considérable sur les décisions publiques. Ce que je trouve plutôt une bonne nouvelle, si j'ose employer un terme comme ça, vu le drame qui se passe en Australie, c'est que il y a deux grandes difficultés dans la lutte contre le changement climatique. L'une, c'est que certains pays sont des gros pollueurs, hein, émetteurs de CO2. C'est pas forcément eux qui prennent massivement les conséquences du dit changement climatique. Donc il y a un petit côté, je me lave les mains, si j'ai des inondations massives au Bangladesh et une vingtaine de millions de personnes qui sont obligées de migrer et ensuite qui vont se cogner contre l'Inde au nord, c'est pas trop grave pour les Occidentaux. Donc là, la bonne nouvelle quand même, si j'ose encore le dire,
c'est un pays émetteur de gaz à effet de serre directement touché.
Conscience que c'est aussi notre problème. Donc c'est une manière très concrète, parce que évidemment, nous on le sait depuis très longtemps, enfin tous les spécialistes du changement climatique savent très bien que les conséquences, ça va être pour tout le monde. Sauf que quand on dit c'est pour tout le monde, mais c'est dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, là, tout le monde pense long terme.
Et quand c'est loin de voilà. Soi. Hein,
tout le monde pense long terme. Donc, vous avez parlé du terme long terme, vous employez le terme long terme, mais là, je dis non, il s'agit de faire des politiques maintenant, pour corriger le tir maintenant. Et deuxièmement, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'adaptation, c'est aussi des investissements qu'il faut réaliser maintenant. Alors, le deuxième grand
Alors,
problème...
Alors, le tu allait en direction de Vivian Despoisses, hein, voilà, je le dis pour les auditeurs.
Voilà. Et donc, le deuxième grand problème, le problème du changement climatique, c'est que les uns et les autres émettent une partie du total des émissions de gaz à effet de serre et peuvent considérer qu'ils n'ont aucun effort à faire, que c'est les autres qui vont faire les efforts et qu'eux bénéficieront du climat qui sera donc moins déstabilisé parce que les autres font les efforts.
Alors, est-ce qu'on peut parler, d'une manière générale, hein, au-delà de l'Australie, d'un déni ou d'une irresponsabilité au niveau étatique? Vivian Despoisses.
Un déni, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que on a de plus en plus comme discours assez partagé que le changement climatique est bien là et qu'il y a bien des responsabilités. Alors je dis de plus en plus parce qu'on a quand même eu des cas, y compris sur cet exemple australien, de discours très relayé, y compris de politiques australiens disant que c'était d'autres causes que le changement climatique qui étaient prédominantes dans cette catastrophe. Alors des causes, il n'y en a jamais qu'une seule, mais la trace du changement climatique, elle paraît indéniable dans ces incendies et dans cette catastrophe-là. Par contre, ce qui, je pense, est là où on en est du problème, et vraiment très frappant, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre des discours qui sont répétés, re-répétés, qu'on essaye de croire, puisqu'on a aussi cette logique qui est de dire que c'est plus on va dire que la transition est possible, qu'on y arrive, qu'on est sur des trajectoires de décarbonation de l'économie, plus cela va être économiquement possible. On parle parfois de prophéties autoréalisatrices qu'on essaye de mettre en branle, mais de plus en plus on voit ce décalage entre des discours qui disent « oui, oui, on en est conscient, oui, oui, on fait des choses » et la réalité des décisions qui sont prises, et dire en même temps que on va réduire pour tendre vers zéro des émissions de gaz à effet de serre de certains pays et que on pense qu'on va pouvoir doubler le trafic aérien dans les 10-15 prochaines années. Quelque part, il y a une contradiction.
Alain Grandjean.
Oui, la Suisse avait travaillé un grand nombre de scientifiques sur la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire être zéro net émission, neutre carbone en 2050 pour un pays comme la Suisse. Et donc la conclusion est sans appel. C'est une transformation massive de l'ensemble de toute l'économie, de toute la société, des modes de production, des modes de consommation. Donc je pense que le grand écart entre ceux qui nous disent qu'ils ont bien compris, mais qui ne font pas grand-chose, comme tu viens de dire, Vivien, ce grand écart est simplement dû au fait qu'on ne comprend pas encore, on n'a pas assimilé, et quand je dis « on », c'est l'ensemble des citoyens, cette transformation massive. Donc la meilleure image que je peux donner, je pense, de ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est une reconstruction du type de la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. C'est là qu'on en est.
Quoi, Le plan Marshall,
c'était un début. Mais il faut d'abord arriver à se représenter qu'on est dans une économie totalement sinistrée, alors que tous les messages qu'on entend, c'est le contraire. Les indices boursiers se portent très bien. On est en train de courir après la croissance. Vos collègues journalistes, là, vous êtes deux journalistes ici, n'arrêtent pas de nous expliquer que c'est des bonnes nouvelles quand le PIB augmente. C'est tout ça qui est à retransformer complètement. Et tant que ce mental-là, cet imaginaire-là, parce que c'est un imaginaire, n'est pas retransformé, je pense qu'on aura cette dissonance énorme, cet écart énorme entre les besoins de cette reconstruction et ce qu'on fait.
Alors le réchauffement climatique a un coût, hein, donc les feux, les tempêtes comme Irma, Harvey, les inondations, les sécheresses, etc. Quel bilan chiffré et prévisionnel a pu être établi peut-être à ce jour? Si je ne me trompe pas, c'est l'économiste Nicolas Stern hein, qui est le premier, dans un rapport daté de 2006, avait attiré l'attention sur le coût élevé de l'inaction. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait ce que ça coûte ou ce que ça coûterait ce réchauffement climatique ou, enfin, grosso modo, voilà.
Sur l'Australie, les incendies donc de 2009 dans le Victoria, ça avait été évalué à l'époque à 2,7 milliards d'euros. Sachant qu'aujourd'hui, à cette date, les feux actuels sont 13 fois plus importants en termes de surface que ce qui avait été en 2009.
Donc ça pour l'Australie. Alain Grandjean.
Le chiffre global que j'ai sur 2019 donc de Monicré, c'est 150 milliards de dollars. Les effets du changement climatique avec la hausse de la température croissent beaucoup plus vite que la hausse de la température elle-même. Donc on doit s'attendre à une augmentation des coûts qui va être beaucoup plus élevée en fonction de la hausse qu'on subit. C'est pour ça que le chiffre de 2 degrés d'augmentation, oui, de plafond de 2 degrés n'est pas un chiffre qui sort du chapeau, parce que entre 2,5, 3, chaque demi de degré compte, comme le dit Valérie Masson-Desmottes, et compte dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que ça compte en termes d'impact et en termes de conséquences économiques. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais bien aimé la phrase d'Henri de Castres, qui était à l'époque directeur général d'AXA, et qui disait, en 2015, un monde à 4 degrés n'est pas assurable. Donc on va peut-être en discuter deux minutes.
Comment est-ce que les États, aujourd'hui, peuvent continuer à faire face aux dégâts de ces grands événements climatiques? Vivien Despoues.
Je trouve ça très intéressant, la petite tournée des chiffres qu'on vient de faire. Je pourrais en citer d'autres. Il y a eu un rapport fait par une ONG britannique aussi, citant il y a eu plus de 10 catastrophes naturelles l'année dernière qui ont coûté plus d'un milliard d'euros, ce qui est aussi un chiffre en augmentation. Et je pense que c'est des chiffres qui sont très intéressants pour nous alerter. On en voit beaucoup, mais c'est des chiffres qui donnent aussi relativement peu de prise à l'action parce que ils agrègent énormément de choses et surtout parce que ils n'attribuent pas forcément qui va devoir porter quel coût, qui est directement concerné, qui va
payer,
devoir faire un investissement et en avoir les bénéfices. C'est rarement d'ailleurs les mêmes personnes. Et en tout début d'émission, vous avez diffusé un témoignage qui était très émouvant de quelqu'un qui venait de perdre sa maison. Et parfois, je pense qu'on oublie que derrière ces chiffres très agrégés, il y a surtout ce type de constat-là. Cette maison, c'était probablement pas des dizaines de milliards d'euros, mais c'est quelqu'un qui cherche à s'adresser à son gouvernement, qui n'a pas de retour direct de son gouvernement. Et c'est aussi ça qu'on a derrière ces chiffres-là et qu'on oublie un petit peu. Et ces chiffres agrégés, ils sont intéressants, mais ils sont probablement pas suffisants pour donner les prises à l'action dont on a besoin.
Et oui, cette maison, c'était toute sa vie. Et ces événements-là ou ces témoignages, on les entend régulièrement, y compris en France, quand il y a ou des inondations. Je voudrais vous faire écouter ce document sonore, un extrait d'un reportage diffusé sur France 2 le 16 juin 2019. C'était dans le cadre des inondations et des grands orages qui avaient frappé la Drôme. Et il est question, bien sûr, des compagnie d'assurance.
Coup de vent, grêle, inondation. Face aux événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents, les assureurs sont de plus en plus sollicités. En 2018, ils ont dû verser 3,2 milliards d'euros d'indemnisation. Des sommes en constante augmentation ces 30 dernières années. Plus d'un milliard par an en moyenne dans les années 80. 2 milliards sur les décennies 90 et 2000. 2,7 milliards en moyenne actuellement. Et la tendance n'est pas près de s'inverser.
Le coût des aléas naturels risque de doubler dans les 25 prochaines années, et plus spécifiquement le coût des sécheresses.
Conséquence, le prix des assurances grimpe. L'an passé, les cotisations ont augmenté de 2,9% par rapport à l'année précédente. Une montée des prix qui, là encore, devrait se poursuivre dans les prochaines années.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Charlotte Chabat, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être sur les coûts au-delà
des climats. Sur les coûts, il y a aussi tout ce qu'on est en train de perdre d'immatériel aujourd'hui. Par exemple, en Australie, les forêts qui sont en train de brûler sont pour la première fois des forêts humides qui remontent au Gondwana, qui ont 30 millions d'années. Moi, je parlais avec un biologiste australien qui était en larmes au téléphone et qui me racontait que certaines forêts du Queensland, quand je leur demandais les arbres, quel âge ils avaient, ils étaient là depuis toujours, en fait. On est en train de perdre aussi le patrimoine mondial de l'humanité dans ces incendies. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on pourra, quoi qu'il arrive, jamais mettre de prix. C'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais à faire repousser.
Alain Grandjean, à l'échelle de la France, hein, prenons ce cas-là, comment, par exemple, en France, un État peut engager quelque chose en sachant que, enfin, une politique donc efficace de transition face à cette question de réchauffement climatique, c'est-à-dire engager une politique, à la fois politique et économique, rompre avec la pensée dominante, on le disait, tout en poussant aussi le monde financier, le secteur financier à prendre sa part et à ne pas rester dans l'inaction.
Alors chacun sa part dans cette affaire, donc les acteurs publics, les acteurs privés, les ménages ont chacun leur part. Du côté du secteur public, ce qui me semble évident, c'est qu'il y a des besoins très importants d'investissement et d'accélération de ce qui est en train de se passer. Le gouvernement actuel et son administration ont fait ce qu'on appelle une stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une feuille de route qui permet d'aller vers une France qui sera neutre carbone en 2050, un peu comme je parlais de la Suisse tout à l'heure. Donc on sait à peu près ce qu'il faut faire. Et il n'y a pas besoin de faire des innovations de rupture considérables tous les trois matins pour le faire. Simplement, il y a besoin d'accélérer, de déployer, de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la consommation d'énergie fossile dans le bâtiment, dans le véhicule, dans nos déplacements. Il y a besoin de transformer l'urbanisme. Bon, là, je ne vais pas faire la liste, ce serait une litanie. Mais ce plan d'ensemble, il existe. Bon. Simplement, ce qu'on voit bien...
Et on sent qu'il y a des freins.
Bah, on voit bien que les mesures concrètes qui sont prises ne sont pas à la hauteur de ce plan. Donc il y a un écart très significatif entre les discours, les plans théoriques et la réalité du passage à l'acte. Et par ailleurs, on voit bien, mais je ne vais pas être trop long, on voit bien les difficultés de l'affaire parce que les uns et les autres, nous devons changer. Alors il y a des fois, c'est des changements de comportement qui nécessitent toute une série de compréhensions, d'acceptation. Si je prends un exemple très très concret, réduire la consommation de viande rouge qui est maîtrise de méthane, ben, c'est pas quelque chose d'indifférent à chacun d'entre nous. Ça peut même créer des contre-réactions passionnées. Donc je mettrai pas tout dans la banette des pouvoirs publics.
Mais non, il y a les actions que tout le monde peut faire.
Il y a la compréhension et l'acceptation, voilà. Et l'idée qu'on est en démocratie et que donc le pouvoir est aussi à, non pas à la remorque de l'opinion, mais mais il y a quelque chose comme ça. Oui,
il y a deux univers, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a tout ce que chacun, chaque citoyen ou chaque communauté, chaque secteur peut faire de son côté face à cette question du réchauffement climatique, mais aujourd'hui, on est déjà face à un coût du réchauffement climatique avec les événements, les catastrophes naturelles, les événements dramatiques. Et là, on se rend bien compte que ces milliards et ces milliards et ces milliards, jusqu'à quand est-ce que les États vont pouvoir assurer derrière, ne serait-ce que prendre la relève dans le cas de catastrophes naturelles auprès des assureurs, etc. Et donc, c'est aussi cette question d'une autre politique, certainement, et d'une politique aussi gouvernementale qui peut-elle jouer un rôle auprès aussi des secteurs financiers. On sait que les secteurs financiers n'investissent pas encore complètement dans le décarboné et que ce secteur financier, c'est un pôle important qui peut jouer un rôle. Pigeon des Poisses.
Je peux rebondir sur la question de Juju. Enfin, vous disiez tout à l'heure, un monde à 4 degrés, c'est un monde qui n'est peut-être plus assurable. Jusqu'où les États vont pouvoir garantir les coûts des dommages? C'est un débat qui se pose dans des termes assez différents. Donc, qu'on soit en Australie, aux États-Unis, en France. En France, on a la chance, pour l'instant, d'avoir un système d'assurance des catastrophes naturelles qui, aujourd'hui, est en fait un choix de société de mutualiser les risques, de mutualiser les dommages quand on est victime d'une catastrophe naturelle. En 2015, la Fédération française des assureurs a fait une étude dont, avec la Caisse centrale de réassurance, dont la question, de manière très schématique, était jusqu'où ce système est viable, jusqu'où ce système est pérenne dans un monde avec un changement climatique. Et c'est de cette étude que vient le chiffre que vous diffusiez, le coût des catastrophes naturelles pourrait doubler dans les prochaines décennies. Une des conclusions très fortes de ce rapport, c'est le système peut rester pérenne, on est capable de continuer à pouvoir compter sur une forme de solidarité nationale à condition de plus construire n'importe comment, de plus aménager n'importe comment et d'anticiper le fait qu'il va y avoir ce risque, d'arrêter de s'exposer n'importe comment et de surtout de totalement déléguer à l'État le fait que ce risque pourra être maîtrisé ou géré a posteriori. Et donc, c'est vraiment une question de choix politique au sens fort, de comment on choisit de construire, par exemple, quand on aménage ou qu'on réaménage un littoral, quand on développe une opération urbaine dans une zone inondable.
Des territoires bien balisés.
Exactement, avec des discussions qu'il faut avoir pour savoir finalement quel va être le niveau de risque qu'on est prêt à accepter. Parce qu'on n'est peut-être pas obligé partout d'être sur un risque zéro. On peut aussi accepter qu'il y a des cas où on sera soumis à des risques, à des chocs, à des catastrophes naturelles, et que si on a les bons systèmes, les bons éléments de réponse, on pourra s'en relever sans trop de dommages. Des cas où, au contraire, il faudra effectivement être le plus robuste possible. Et tout ça, c'est des questions politiques qu'on ne peut pas juste déléguer à quelques techniciens dans des ministères.
Alain Grandjean, l'État peut-il agir aussi en impulsant, alors de grands projets on imagine, mais en fléchant la politique monétaire vers la transition? Il y a de l'argent, mais qui est souvent orienté vers des bulles spéculatives.
La finance a compris depuis 2014-2015 qu'il y avait des risques importants pour elle. Bon. Donc maintenant, il appartient à la puissance publique de changer un peu de fonctionnement par rapport à la finance, de cesser de considérer que la finance, toute seule comme une grande, va financer et s'autoréguler. Et donc, elle a des leviers assez puissants parce que d'ores et déjà, les banques et toute une série d'investisseurs, sauf qu'il y a des exceptions, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, dans ce qu'on appelle le shadow banking, sont soumis à toute une série de régulations. Ces régulations peuvent intégrer la question du climat et il y a des études qui sont en train de se faire dans ce milieu-là, y compris au sein des acteurs de la régulation, intégrer donc les questions climat et plus largement les enjeux écologiques. Et la Banque centrale en tant que telle, donc là en l'occurrence c'est la Banque centrale européenne, a des leviers sur l'orientation de la finance. C'est un changement de paradigme là, comme on dit, c'est un terme un peu pompeux, dont je pense qu'il est possible qu'il se passe. C'est pas du tout impossible. On n'est pas, j'aimerais quand même donner un tout petit peu d'optimisme à notre auditeur, on n'est pas dans des choses qui sont radicalement inconcevables. On est dans une situation où les niveaux de stress et de préoccupation sont tels que les acteurs étudient des solutions très concrètes. On ne va pas parler dans deux minutes, mais il y a des leviers qui sont à la main de la puissance publique.
Alors on peut rappeler qu'il y a un an, un pacte financier européen pour sauver le climat était appelé des vœux de 600 personnalités qui avaient signé ce projet de la création d'une banque au service de la transition écologique. Et pour donner encore quelques chiffres, ce sont 55 à 85 milliards, je crois, d'euros annuels dont aurait besoin la France pour engager cette politique de transition pour le climat. En Europe, environ 1 000 milliards. milliards. On est par an, hein. On est sur ces chiffres-là, Alain Grandjean.
Alors, il y a beaucoup de calculs. C'est un peu comme les effets du changement climatique.
En gros, hein, c'est pour donner une idée. Quoi.
La Commission européenne actuelle, sa communication, c'est de dire il manque à peu près 300 milliards d'euros au niveau annuel pour faire face aux besoins de financement dans le domaine de l'atténuation. Donc on est bien quand même dans la gamme des centaines de milliards et on est quand même donc clairement dans une gamme de montants qui est tout à fait accessible. Il se trouve qu'on est dans une conjoncture absolument exceptionnelle qui est des déficits publics qui en moyenne en Europe sont assez bas, des taux d'intérêt négatifs, la définition assez claire maintenant des stratégies puisque le chiffre de 55 à 85 il est fait par I4C et donc on voit très très bien les investment gaps, les trous d'investissement, on sait où ils sont. Et donc là, de mon point de vue à moi, on a vraiment de la marge pour investir rapidement. Et donc là, il y a vraiment une question de volonté politique. Je crois que les citoyens commencent à bien comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc, ils attendent aussi des impulsions politiques. Et tout le monde attend. Alors, ce qu'il faut viser, c'est que il n'y ait pas chacun s'attend sans arrêt. Quoi. Les ménages attendent les entreprises attendent l'État, l'État attend les entreprises et les ménages. Voilà. Donc, c'est ce cercle vicieux qu'il faut casser. Et je pense que c'est faisable maintenant.
Donc, il n'y a pas à avoir peur de la limite des fameux 3% du PIB à ne pas dépasser en déficit public, ce que vous dites.
Oui, je pense
qu'il y a quand même ces contraintes européennes oui, aussi pour les pays.
Si on préfère mourir guéri, moi je veux bien. Hein. Mais je préférerais pas mourir.
Vivien Despoissy.
Si je peux préciser quelque chose sur ce qui vient d'être dit, le terme qui a été utilisé, c'est bien le terme de réorientation aussi. Quand on parle justement de ces manques d'investissement, c'est parce qu'on a d'abord en tête le plan de tout ce qu'il faudrait faire pour pouvoir mettre en place cette transition. Mais la première recommandation, pour reprendre un terme qui vient du milieu médical, c'est de ne pas nuire. Et donc, il y a tout un tas de choses dans lesquelles on continue à investir, dans lesquelles on pourrait peut-être ne plus investir et réorienter. Pas ne plus faire de transport, mais faire le transport autrement. Et donc, c'est pas juste faire aussi du transport qui serait vert. C'est aussi sortir de solutions qui, aujourd'hui, ne sont, comme on le disait tout à l'heure, clairement plus compatibles avec nos objectifs. Et pour ça, on a déjà tout un tas de mécanismes, d'institutions, d'outils dont il s'agit de revoir peut-être en partie des règles de fonctionnement, des priorités, pas forcément de créer toujours des choses.
Mais il faut enclencher plus avant cette politique-là. Comme vous avez le micro, Vivien Despoissy, je vous propose de nous faire partager votre choix musical.
C'est Beds Are Burning, qui est une chanson, je pense que le titre dit tout, une chanson mythique, qui initialement d'ailleurs n'était pas sur des questions écologiques, mais sur des questions d'appropriation des terres aborigènes en Australie, qui a été reprise par les mouvements écologiques. C'est une chanson qui me parle beaucoup parce que elle a été réutilisée beaucoup en 2009 au moment du sommet de Copenhague par les ONG, justement pour alerter, pour dire c'est plus possible, on va tout voir brûler. Moi, c'est le moment où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ces questions. Et voilà, 10 ans après, on est en plein dedans.
Et donc, du groupe Midnight Oil, qui lui-même est un groupe australien, si je me souviens bien.
Time has come. A fact's a fact. lives and breathes in 45 degrees.
The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come. A fact's a fact. It belongs to them.
Let's give it back.
C'était Midnight Oil, Bets Are Burning, le choix de Vivian Despoëz dans cette émission consacrée à la finance qui peut peut-être sauver la planète qui brûle. Cette planète qui brûle notamment avec les méga-feux mortels qui détruisent des milliers d'hectares en Australie et que des événements dramatiques liés au réchauffement climatique sont de plus en plus fréquents. Un réchauffement climatique qui a un coût pour les hommes, pour la nature, mais aussi pour les États. Comment la finance peut-elle anticiper et prévenir ces questions? Nous abordons ce sujet avec... toujours Alain Grandjean avec nous, président de la Fondation Nicolas Hulot, polytechnicien, docteur en économie, Vivian Despoëz, chercheur à l'Institut de l'économie pour le climat, économiste également de formation et spécialiste de l'adaptation au changement climatique, et puis Charlotte Chabat, journaliste au journal Le Monde, notre partenaire média. Et je rappelle que dans quelques minutes, dans l'escale verte, c'est le photographe Alexis Rosenfeld qui sera notre invité et qui vient de s'installer dans le studio. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, cette Australie, eh bien, on y retourne justement parce que elle est tellement au cœur de l'actualité et bien sûr, elle nous renseigne sur ces questions de coût du réchauffement climatique.
La fumée est encore très épaisse, mais l'incendie est éteint. Cet endroit abritait un immense sanctuaire pour animaux sauvages, 350 hectares. Il y avait ici des centaines de kangourous, des wallabies et d'autres espèces endémiques d'Australie. Mais tout a brûlé. C'est Sarah Tilling qui dirige le sanctuaire. Quand le feu est arrivé, elle a dû abandonner ses protégés.
C'était rempli de kangourous, au moins 100 ou 150. On les voyait tous les matins et tous les soirs en train de manger. Et depuis les incendies, nous en avons revu à peine 20. Certains se cachent peut-être.
Peu à peu, d'autres pensionnaires réapparaissent. Ici, un couple de wallabies.
Hey Grace, regardez-la. Gracie, c'est une survivante. Elle a des bandages sur les pieds car elle a les pieds brûlés, regardez. Elle a perdu du poids, sa santé s'est dégradée. Nous sommes inquiets.
Sarah aussi a payé le prix fort. Voici tout ce qu'il reste de sa maison située au milieu du sanctuaire, de la tôle et des cendres.
Perdre tout, absolument tout, et de cette façon... c'est vraiment cruel, tellement cruel. Mais les animaux sauvages sont les plus grandes victimes de tout ça. Nous, nous pouvons reconstruire nos maisons, ce sont juste des objets. Mais eux, qu'ont-ils fait pour mériter ce sort? Qu'ont-ils fait? Ils étaient là avant nous, c'est leur territoire, pas le nôtre. Et nous avons tout détruit. Ça me brise le cœur.
C'était le témoignage de Sarah diffusé sur France 2 le 8 janvier dernier. Charlotte Chabat, on a beaucoup parlé dans ce reportage aussi des animaux, de cette faune, de cette flore, des écosystèmes. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la capacité de résilience et de survie des écosystèmes australiens? Ou est-ce que définitivement des espèces qui étaient déjà sous pression, qui tentaient de survivre, seront éradiquées?
Ça va dépendre des endroits, ça va dépendre de comment et avec quelle intensité le feu a brûlé. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire de la forêt australienne, c'est que c'est à peu près pour trois quarts des forêts d'eucalyptus qui, elles, sont tout à fait adaptées au feu. Ça fait même partie de leur fonctionnement. Le feu fait partie du végétal. Il y a d'ailleurs une grande culture du feu en Australie. Les aborigènes, à l'époque, construisaient le feu. Il y a un proverbe aborigène qui dit qu'il faut garder sa maison propre et ses buissons bien brûlés. Aujourd'hui, cette culture a été perdue. Et ce qui est grave, c'est qu'on l'a tellement perdue que... D'autres forêts qui n'étaient pas adaptées à ce feu ont brûlé cette fois-ci, notamment tout ce qui est forêts tropicales qui, elles, sont très denses, toujours normalement humides. Et du fait notamment du réchauffement climatique, elles ont été asséchées d'une manière inhabituelle et elles ont brûlé. Cet écosystème-là, aujourd'hui, va avoir du mal à repousser ou du moins va le faire très doucement. Et en cas de récurrence des feux, si d'ici 10 ans, on dit qu'en moyenne, une forêt tropicale a besoin de 100 ans pour se reconstruire. Donc si un nouveau feu survient avant ça, ce sera à nouveau perdu.
Et alors aujourd'hui, autre info à donner sur cet état des lieux, c'est que les glaciers néo-zélandais sont d'ores et déjà souillés par les fumées des feux australiens, ce qui va accroître le réchauffement climatique puisque ça va augmenter la fonte de ces glaciers, et car la suie noire absorbe la chaleur. C'est une autre conséquence. Alain Grandjean, sur ces politiques, ces économies qu'il nous faut modifier, changer, en tout cas aborder autrement pour être une vraie solution face au réchauffement climatique, est-ce qu'il y a des pays plus vertueux que d'autres ?
Alors, une grande diversité de pays, donc il y a des pays qui sont moins émetteurs de gaz à effet de serre par point de PIB en Europe du Nord, par exemple en Suède. Il y a des pays qui sont vertueux par défaut, c'est-à-dire que les gens sont tellement pauvres qu'ils sont pas source d'émissions significatives. Et donc oui, il y a une très grande variété de pays.
Mais ceux qui sont les plus modernisés justement
Sur le plan de la politique énergétique, on basculé vers ce qu'on appelle les énergies bas carbone. Et il y a que deux grandes catégories d'énergie bas carbone. Il y a les énergies de type renouvelable et l'énergie nucléaire. Donc c'est pas compliqué, il y a que ça. Bon, et ça c'est le premier poste, c'est pas forcément le seul. Il y a aussi, et dans ces pays-là, ça se discute beaucoup, il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'emploi de cette énergie. Donc il y a à la fois la source d'énergie, est-ce qu'elle est bas carbone ou pas bas carbone, et puis il y a le fait d'être économe de cette énergie, quelle que soit son intensité carbone. Et puis deuxièmement, le deuxième grand poste, c'est tout ce qui touche autour du méthane, et ça concerne plutôt l'élevage et puis certaines activités de culture, comme par exemple le riz. Les rizières peuvent être émettrices de méthane. Évidemment, toute la gestion des déchets qui peut aussi être source de méthane. Donc là, la grande question, c'est de savoir si, un, on est capable et on accepte de réduire nos émissions directes de méthane, et deux, si on est capable d'inventer des systèmes de réusage du méthane.
Dernière question, est-ce qu'il ne faudrait pas à terme ou dès maintenant faire en sorte que le ministère des Finances soit dépendant du ministère de la Transition écologique, en France ou ailleurs
d'ailleurs. En France ou ailleurs. Donc il y a derrière cette proposition un peu insolite qu'on a fait dans le livre Agir sans attendre, il y a l'idée que ce qui compte n'est pas forcément ce qu'on compte. Donc tout ce qu'on vient d'entendre là, les pertes irréversibles des personnes qui sont là, elles ne sont pas comptées dans nos systèmes comptables. Donc je pense qu'il y a un tout petit peu de bon sens à avoir, et je suis pas complètement sûr. Et le bon sens, ça consiste à raisonner de manière un peu globale, en se disant, ce que je disais tout à l'heure, mourir guéri, c'est pas une bonne idée. Donc effectivement, l'idée, c'est que d'ouvrir un peu la boîte, se dire, certes, les uns et les autres, on doit compter un peu nos sous, mais y compris l'État, parce que sinon les impôts sont trop élevés. Néanmoins, ceci ne doit pas être le seul guide de l'action. Et donc inverser les logiques, se dire ces grands sujets transversaux sont d'abord les plus importants et la question de sous est une question de moyens, je pense que c'est une bonne manière de faire comprendre la situation dans laquelle on est. Donc on disait tout à l'heure, il y a des renversements de manière de voir, il y a des lunettes à changer, je pense qu'il faut le faire aussi de cette manière-là, en changeant nos priorités. Alors, juste un tout petit mot d'une demi-seconde, quand l'actuel président de la Commission européenne parle d'un Green Deal, moi je suis assez content, mais j'aurais préféré qu'elle parle de Green New Deal. Il y a vraiment une innovation institutionnelle à faire, et même au niveau européen, on a le même effet que ce qu'on peut craindre d'avoir dans les gouvernements, c'est-à-dire du cloisonnement. Et Timmermans qui s'occupe des questions d'écologie et des mondes durables, et Dombrovski qui va s'occuper de la caisse. Je pense que tout ça doit être beaucoup plus intégré, et que la solution à notre affaire de crise systémique, c'est une solution qui passe par beaucoup plus de transversalité et beaucoup plus de cohérence des politiques publiques. On est beaucoup trop dans des silos, et on considère encore beaucoup trop que l'écologie, c'est un centre de coûts, et que Bercy est là pour arrêter les dépenses des dépensiers, que ce soit l'écologie, les hôpitaux ou d'autres ministères. Donc c'est cette logique-là qu'il faut vraiment inverser rapidement, et c'est pour ça que c'est pas complètement facile, parce qu'il y a du rapport de force derrière, et je pense que c'est pas qu'une affaire de bisounours.
On l'aura compris. Merci à tous les trois. Merci Alain Grandjean. Je rappelle le titre de vos livres, Agir sans attendre, édité au lien qui libère. Et vous êtes co-auteur du livre Financer la transition, paru aux éditions de l'Atelier. Vivian Despoès et Charlotte Chabat, on retrouvera à la fois vos travaux, vos études et vos articles, Charlotte, sur lemonde.fr et sinon pour l'Institut de l'économie pour le climat, Vivian Despoès. Les liens seront mis, bien sûr, en accès libre sur le site de l'émission. Et à signaler aussi le très beau livre de Frédéric et Sandrine Mouchet, Australie aborigène, paru chez Glénat. Mais vous restez avec nous, c'est le dernier rendez-vous de notre émission, qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec l'Australie et le réchauffement climatique, l'escale verte.
Cette équipe de scientifiques sud-africains est engagée dans une course contre la montre pour tenter de sauver les coraux menacés de disparition. Et ils ont peut-être trouvé un motif d'espoir. Ici, au large, dans la baie de Sodwana, se trouve un récif aux caractéristiques exceptionnelles qui résistent, semble-t-il, au changement climatique.
Nous avons des coraux particulièrement résistants. Il semble que cela est dû au fait qu'ils sont dans un environnement dur. Ils doivent affronter des changements de température brutaux, contrairement aux coraux tropicaux. L'eau est étrangement chaude pour cette période, mais il n'y a pas de mortalité. Je suis vraiment content de l'état de ce récif.
Car partout ailleurs dans le monde, ou presque, les récifs coralliens sont en train de mourir à grande vitesse, comme ici, sur la grande barrière de corail en Australie, où plus de la moitié des coraux ont déjà blanchi, morts, sous l'effet du changement climatique. Après avoir prélevé des échantillons, les scientifiques sud-africains les amènent dans ce laboratoire de Durban, où leur résistance est mise à l'épreuve.
On prend ces fragments de corail et on les expose aux conditions qu'ils devront affronter en 2100 pour voir comment ils réagissent. Est-ce que nous aurons encore des coraux en 2100 ?
L'espoir de prolonger la vie des récifs aujourd'hui sur le point de disparaître. Le docteur Pearton et ses équipes ont déjà commencé à constituer une banque de germes de coraux sud-africains, congelés dans cette bouteille, dans l'espoir de les propager un jour dans le reste du monde.
L'escale verte, chaque semaine, nous portons notre regard sur un lieu, un écosystème en France, en Europe ou ailleurs dans le monde pour y découvrir des territoires, des coins de paradis ou des secteurs en danger, des actions positives ou négatives, des événements aussi, avec des chercheurs, des alerteurs, des acteurs de la transition en cours. Aujourd'hui, direction les récifs coralliens avec notre invité. Bonjour Alexis Rosenfeld.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je précise pour les auditeurs que vous êtes photographe, auteur du livre Récifs coralliens, cœur de l'océan, un livre paru aux éditions Mangareva Productions, avec vos photos sublimes accompagnées des commentaires de Lambert Wilson et Serge Plane. Première question, puisque la première partie de l'émission portait sur l'Australie. L'Australie, vous y avez plongé, on imagine ?
Je travaille beaucoup dans cette région en ce moment, pas particulièrement en Australie, mais à proximité sur la Nouvelle-Calédonie. Donc on est sur une dimension régionale de ce système corallien. Et voilà, c'était intéressant d'écouter ce petit passage et d'entendre ce côté dramatique sur la Grande Barrière. Et de se poser la question, pourquoi sur la Grande Barrière de Corail, on a une mortalité aussi importante et que sur la Nouvelle-Calédonie, par exemple, juste à proximité, dans la même région, tout va bien.
Et en sachant que vous l'aurez compris dans ce reportage qui a été diffusé sur France 2 le 8 octobre 2019, qu'il y a des chercheurs donc qui travaillent aussi sur des coraux résistants et qui potentiellement espèrent trouver des solutions pour ceux qui sont en grand danger. Alors, vous avez été élève de Cousteau, scaphandrier, moniteur de plongée. Ça, c'est un petit peu pour une légère partie de votre CV.
J'ai eu la chance de participer à la dernière mission du commandant Cousteau à Madagascar. C'était il y a quelques années, c'était vraiment une histoire extraordinaire. C'est-à-dire que c'était le petit garçon qui ouvre l'écran de la télévision et qui rentre dans cette grande odyssée, cette aventure exceptionnelle du siècle dernier.
Et donc, ce que vous dites, c'est que quand vous faites des photos, vous ne faites pas juste des photos, ce sont des moments photographiques. C'est pas la même chose.
Oui, c'est vraiment la différence avec le film. C'est-à-dire que cette photographie, plus que l'image, c'est vraiment la photographie. C'est pour moi cette notion de témoin. Alors pour mes copains qui font de la guerre, ça va être un témoin en Syrie, sur Alep ou je ne sais où. Voilà, moi je suis dans ce monde des océans et témoin des océans. Mais ce qui m'importe, c'est de raconter une histoire, en fait. C'est la dimension qu'il y a entre le, je pense, le lien entre le photographe et le journaliste et cette création du photojournaliste, en fait. Avec l'image, c'est une sorte de mot, c'est une narration qui est parfois rude, sublime et complexe, parce que je veux que ça soit mon message qui soit passé dans l'image et qui n'est pas une interprétation d'autre chose. Donc la photo, la légende, le texte qui accompagne mes photographies sont essentiels. C'est un tout parfois assez complexe et en une photographie parfois, parce que c'est vrai que dans certains magazines, c'est l'image de la semaine ou le zoom de la semaine et il faut que cette photo soit assez forte pour passer de l'émotion, pour passer de l'information, pour être chouette. En plus, il faut qu'elle soit belle, sinon elle n'est pas publiée. Et c'est quelque chose d'assez complexe, merveilleux, et c'est à chaque fois un défi.
Alexis Rosenfeld, on sent que dans ces moments photographiques, hein, vous cherchez à renseigner, alors à la fois en œil scientifique, dites-moi si je me trompe, à faire vibrer l'âme des lecteurs et à interpeller, soit face à des petites merveilles, ou soit face à des périls aussi.
Oui, je suis témoin ou passeur. C'est-à-dire que, à partir du moment où une histoire scientifique me passionne, m'intéresse ou m'interpelle, photographiquement, je vais essayer de la raconter, de la transmettre. Cette manière d'aller chercher, d'essayer de comprendre le fonctionnement, de comprendre l'évolution, le dynamisme de ces écosystèmes, ça a quelque chose d'absolument merveilleux. Donc c'est la collaboration, pour moi, elle est nécessaire. Je ne fais rien seul. J'ai besoin de cet entourage, de ces équipes, des équipes de plongeurs qui sont avec moi quand on fait des travaux compliqués et profonds. Voilà, donc la science, pour moi, c'est un outil et je vais être le transmetteur de cette science à travers mon travail photographique.
Alors, est-ce que les scientifiques vous demandent spécifiquement, quand vous partez sur tel ou tel secteur, de les renseigner aussi par vos photos, parce qu'ils ne connaissent pas ou n'ont pas perçu tel mystère d'un écosystème et ils en ont besoin et votre photo va peut-être révéler quelque chose ?
Ça s'est produit plusieurs fois, souvent par hasard, il n'y a pas si longtemps avec Cécile Berthe du CRIOB, qui est le grand centre de recherche sur les écosystèmes coralliens en Polynésie, on a eu la chance de tomber sur un phénomène complètement incroyable, sur une remontée, une prolifération de nudibranches qui sont ces merveilleuses petites limaces de mer. Et on s'est retrouvé dans une zone à côté de Montréal avec des milliers de ces nudibranches qui étaient autour de nous et qui venaient s'accoupler, pondre. Voilà, c'était absolument féerique.
Et donc ça a servi en tout cas.
Et ça a servi. Voilà, il y a un papier scientifique qui est sorti, une publication, et qui sont sortis grâce à mes photographies et à la présence de Cécile Berthe qui a fait ce papier et qu'on a co-signé.
Alors, il faut préciser que ces récifs représentent 0,2% de la surface des océans, mais ils contiennent 30% de la biodiversité des océans.
30%, ça veut dire une espèce sur trois de l'ensemble des océans sont contenus dans ces récifs coralliens. Ça veut tout dire.
Ah oui, ce sont des marqueurs extraordinaires. Alors, vous avez la réputation d'utiliser des techniques. Est-ce que vous pouvez partager vos secrets, mais que vous gardez jalousement? Ça, on le sait. Est-ce qu'il y a quand même une technique avouable pour obtenir ces photos en plongée sous-marine? On sait que vous partez qu'une équipe, que vous avez besoin de la lumière, donc d'un assistant. Il y a quand même ce temps aussi, au final, sous l'eau, un énorme travail de préparation. Mais on sent que vos photos, elles ont quelque chose d'autre quand même.
C'est un défi permanent parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est l'eau. C'est-à-dire qu'on n'est pas chez nous, on rentre dans un autre milieu. C'est, je pense, aussi complexe quand ils vont faire des photos quand Thomas Pesquet ou Claire Voix photographient depuis l'espace. Nous, on est aussi dans ce milieu où on est limité dans le temps. Ça va un petit peu mieux aujourd'hui parce qu'on a cette chance d'avoir accès à l'image et à l'appareil numérique. Mais imaginez-vous, il y a quelques années, quand on partait avec cette pellicule de 36 poses qu'il fallait mettre dans l'appareil photo en espérant l'avoir bien enclenché et avoir la chance de sortir peut-être une photographie au bout des 36 poses. Donc,
mais votre matériel sous l'eau, il ressemble à...
Donc, mon matériel sous l'eau, c'est un appareil qui est enfermé dans un très gros caisson sur lequel je fixe quelques lumières pour pouvoir éclairer les premiers plans. Et j'ai après mes bodyguards ou assistants qui sont là avec des sources lumineuses et qui vont pouvoir me faire tout ce qui est éclairage indirect. C'est un travail d'équipe qui est très organisé, très sécurisé, parce qu'on va souvent profond. Il n'y a pas longtemps, on était d'ailleurs, c'est une belle histoire, on a été caractérisés, et nous étions les premiers à plonger sur un récif qui est le récif guyanais, découvert il y a quelques années. On en connaissait la présence, il n'y avait jamais eu de plongée. Et les équipes de Greenpeace, avec le CNRS, ont monté, c'est la première fois qu'ils s'associaient d'ailleurs, une mission scientifique pour aller explorer et identifier, caractériser le récif de l'Amazone.
Et là, il y avait quoi d'extraordinaire pour vous? Enfin,
par rapport aux autres récits. L'extraordinaire, c'était la première. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'on plongeait
le terrain vierge.
Le terrain vierge, ce qui est extraordinaire. Alors, c'était assez surprenant parce qu'on était assez loin. On était à 150 km au large de la Guyane, 300 km au large de la sortie de l'embouchure de l'Amazone, avec des courants qui atteignaient 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds. Et on plongeait dans 120 mètres d'eau pour aller découvrir cette zone. Donc il fallait passer une couche de la couche superficielle de l'Amazone, qui était très verte, très dense, avec une complexité pour se repérer sur les premiers mètres. Et puis après descendre dans le noir absolu, sous la neige océanique qui pleuvait sur nous, pour découvrir un nouvel écosystème hyper riche. Quelque chose, un assemblage d'échinodermes, d'étoiles de mer, quelque chose d'absolument merveilleux, qu'on retrouve dans le magazine Ça m'intéresse du mois de février, très bientôt.
Alors des photos, on sent bien que ce sont des défis aussi. La murène en mode chasse, la tapisserie de soie en mode rendu des coraux, là, c'est assez extraordinaire. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux photos que vous pouvez nous raconter parce qu'il s'est passé quelque chose de très 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 particulier?
Oui, par exemple cette photo de baleine, on parle de récifs coralliens, elles font partie de l'écosystème corallien. C'est un écosystème, le corail, on ne parle pas que de l'animal, c'est le lagon et tout ce qui est dedans, tout ce qui est à l'extérieur et tout ce qui s'y passe. Et ces baleines à bosse qu'on retrouve mère et petit dans la proximité de Rurutu, qui est une île des Australes au sud de la Polynésie. C'est extraordinaire parce que ce bébé n'avait probablement jamais vu l'homme, et encore moins moi, et il est venu jouer avec nous. Voilà, mais c'est très compliqué de jouer avec un bébé baleine. Pour lui, ça l'est moins.
Vous paraissez ridicule par rapport à lui,
voilà,
non,
exactement.
C'est ça?
Exactement, c'était assez incroyable. Et voilà, je paraissais très longtemps dans l'eau parce que le jeu de proximité m'a obligé à sortir très rapidement.
En moyenne, vous restez combien de temps sous l'eau pour faire la photo exceptionnelle?
Entre 2 et 3 heures.
Donc sur tous ces récifs, on peut les citer quand même pour les auditeurs. Hein. Maldives, Mer Rouge, Philippines, Polynésie française, les îles Gambier.
Oui, les îles Gambier, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un archipel, un des archipels polynésiens, qui est complètement à l'est de Tahiti. Et qui est merveilleux. Alors qu'il a été autoprotégé d'abord parce qu'il y a eu ces essais nucléaires de Mururoa et Fangataufa.
Donc ils ont subi quand même.
Ils ont subi, et les gens ont subi énormément. Ouais. Et c'est un lagon où il y a beaucoup de ciguatera. C'est une maladie parasitaire qui atteint les poissons sans que ça les gêne, mais ça rend le poisson non consommable. Donc ça le protège. Donc tous les perroquets, etc., ont des tailles assez surprenantes, autoprotégées par cette maladie et cette non-consommation. Et c'est un endroit merveilleux, c'est le paradis et la capitale de la perle noire. Et pour moi, c'est un des plus beaux coins au monde. Il y a très peu de tourisme et l'accès n'y est pas facile. Les gens y sont particulièrement accueillants et les plongées absolument exceptionnelles et vierges.
Et en ce moment, avant de nous quitter, peut-être confiez-nous, vous préparez des expéditions en soi, vous êtes déjà en train d'investir des secteurs?
Oui, il y a un nouveau projet qui s'appelle Mer de Corail, la forêt primaire de l'océan, qui va durer 2 années, qui est la découverte d'un des endroits les plus vierges et les plus purs au monde et les plus denses au monde, au cœur de la mer de Corail.
Merci Alexis Rosenfeld. Je rappelle le titre de votre très beau livre de photos, Récif corallien, cœur de l'océan, un livre paru aux éditions Mangareva Productions, avec, je le rappelle, les commentaires de Lambert Wilson et Serge Plane. Et comme toujours, vous pouvez retrouver les informations, bibliographies, les liens sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Téléchargement et réécoute à votre disposition. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet, ou sur notre page Facebook. Dimanche prochain, dans le cadre de la coalition hashtag Sauver le Présent, avec nos partenaires Le Parisien, Combini News et Ouzbek Erika, nous questionnerons la place et le rôle du monde du luxe et des créateurs dans la mode éthique. Et vous pourrez podcaster cette émission en avant-première dès le vendredi. En attendant, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Être et Savoir et Louise Touré.